C'est un privilège pour moi de pouvoir participer à cette conférence et d'être devant vous et de vous donner une étude, message, mais aussi en quelque sorte une étude. Car vous savez que le sujet que je vais aborder est un sujet que normalement nous ne touchons pas dans nos églises baptistes bibliques. On parlera de Marie. Je serai obligé bien sûr de toucher l'histoire. Ça veut dire, obligatoirement, il fallait que je fasse une recherche historique sur ce sujet. Mais, aussi j'ajoute, il est important de considérer ce qui se passe aujourd'hui en France dans le milieu catholique. Et puis finalement, je voudrais aborder le sujet de ce que nous devons faire en tant que chrétiens fondamentalistes. Alors, j'avais pensé que ce sera mon privilège de prêcher ou de donner cette étude cet après-midi. Et donc, j'ai une illustration devant moi que j'allais donner après le repas de midi. Donc, vous êtes toujours bien éveillés, mais permettez-moi quand même de donner l'illustration. Au cas où que vers 11h, certaines semblent être un peu fatiguées. Le curé explique au médecin de son village, « Je souffre d'insomnie. Le soir, je ne parviens pas à m'endormir. Vous allez vous acheter un magnétophon, conseille le docteur. Dès que vous aurez dîné, vous mettez au lit et vous vous passerez dessus. Des berceuses? Non, vos serments. Eh bien, j'espère que ce matin, puisque c'est ce matin, pas cet après-midi, que ce que je vais vous dire, avec beaucoup de citations d'ailleurs, ne va pas donc vous amener vers une sieste. Cher monsieur, chère madame, Marie, reine des cœurs, Marie, reine de chaque foyer, je vous envoie en cadeau cette très belle image de Notre-Dame de Fatima pour qu'elle pose sur vous son regard maternel. C'est une des plus belles photographies que j'ai pu trouver. Je suis sûr qu'elle vous touchera beaucoup. Mais je veux aussi vous associer au projet en route depuis quelque temps. Contribuer à ce que Marie soit effectivement présente dans un grand nombre de foyers français. Comme ça peut-être. Qui donc es-tu, Marie? Voilà la question qui a été posée par un chrétien il y a quelques années lorsqu'il a écrit un ouvrage sur les différents visages de Marie dans le Nouveau Testament. L'auteur a traité, justement, un thème central du débat entre les catholiques et les protestants. Dans la revue L'actualité religieuse de l'année dernière, au mois de décembre, on a posé une question et on a découvert dans cet article que pensaient les catholiques par rapport à Marie. L'entête de l'article, le voici. Marie offre au catholicisme son plus grand paradoxe. Elle est en effet le cœur du plus fervent des cultes, tout en étant le plus discret des personnages bibliques. À ferveur des célébrations mariales, la fréquentation assidue des lieux de pèlerinage, les guérisons miraculeuses, les médailles, rosaires et chapelets, les images pieuses, tout contribue à entourer Marie d'une émotion très spéciale. Pour la poser une question dans Galates chapitre 4 au verset 30, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Ce matin, je voudrais, comme j'ai dit tout à l'heure, parler de la mariologie, qui devient d'ailleurs la mariolitrie. En France, je voudrais aborder l'histoire, comment sont-ils arrivés à ce point aujourd'hui, et puis donner une réplique à ce que nous voyons autour de nous dans l'Église catholique. Eh bien donc, au premier plan, comment s'est développée la mariologie qui enfin a conduit une partie de l'Église de Rome à l'aube de l'année 2000 à une mariolitrie non seulement exagérée, mais sans frein. Alors, je voudrais citer ici le dictionnaire Larousse de cette année. Dès les premiers temps de l'Église, on croit à la conception virginale de Jésus en Marie par l'action du Saint-Esprit. Au cours des siècles suivants, on met en relief, d'abord peut-être en Orient, l'importance dans l'œuvre du salut de la Vierge Marie que le concile d'Éphèse en 431 proclame Théotokos, mère de Dieu. Au XIe siècle se fait jour la croyance de l'Immaculée Conception, tandis que se développe la piété mariale, notamment avec Bernard de Clairvaux. La réforme s'en prend non seulement aux excès de celle-ci, mais aussi à la théologie même qui la sous-entend. Dans l'Église catholique, rester attaché à cette dévotion seront érigés en dogme la doctrine de l'Immaculée Conception par Pie XI en 1854 et celle de l'Assomption par Pie XII en 1950. Encore une autre citation d'un autre dictionnaire. Le Moyen-Âge donna un grand essor à la piété mariale. Malgré la contestation de la réforme, se constitua une théologie de la Vierge, la mariologie. Puisque, d'après quelques-uns, Marie n'a pas trop dit, il serait commode de lui faire dire beaucoup. Alors la personne de Marie a permis de relier certains mythes grecs. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, vous allez voir qu'il y a Diane, qui, pour les Grecs, était nommée Artémis. Donc, on a relié certains mythes grecs à des croyances égyptiennes très anciennes. Le bassin méditerranéen autour duquel le christianisme a pris de l'ampleur, regorgeait de pulsions martiennelles. Il paraît que toutes les civilisations ont eu sa déesse mère. Et ce fut sur ce terrain fertile que s'est greffé sur la discrète Marie, malgré elle, de mille imaginations. Or, au deuxième et troisième siècle de notre ère, une dévotion populaire s'est étendue en dépit des réticences de plusieurs de l'Église. Par exemple, Tertullien. La théologie mariale est donc née car elle était un sujet propice à l'allégorie et aux erreurs de l'époque. Dans un premier temps, le titre de Théotokos, mère de Dieu, a été proclamé de façon indirecte lors du conseil d'Éphèse, comme j'ai dit tout à l'heure, 431, pour combattre l'hérésie nestorienne. Alors, selon le nestorianisme, il y avait en Jésus-Christ deux personnes distinctes, l'une divine et l'autre humaine, qui étaient simplement conjointes, sans cette véritable union que les théologiens disent ou appellent hypostatique. Marie a commencé à faire son entrée dans les célébrations liturgiques, car en Orient, elle était associée à la célébration des martyrs le 15 août. Avant qu'on ne fasse de cette date celle de son Assomption, la nativité de la Vierge a été fixée par les Byzantines au 8 septembre, dès le 6e siècle, sa conception au 9 décembre. Quant au mois de mai, le mois de Marie, elle était ni plus ni moins empruntée au culte de la déesse Artemis. Il ne restait qu'à définir les dogmes de l'Immaculée Conception et l'Assomption. Car même si on les fêtait depuis longue date, ils n'ont été promulgués par l'Église catholique que à l'époque moderne. Ces deux doctrines propres à Rome se sont heurtées aux objections de plusieurs pères. À titre d'exemple, Bernard de Clairvaux, que j'ai déjà cité, au XIIe siècle et Thomas d'Aquin, au IIIe siècle, ont refusé en leur temps l'idée de l'Immaculée Conception. D'ailleurs, on écrit de Bernard, par ce Bernard-là, que sa dévotion à la Vierge, un des traits spécifiques de sa vie religieuse, contribue à l'édification de la théologie mariale. Si vous lisez un peu sur la vie de Bernard de Clairvaux, vous allez voir pourquoi, en quelque sorte, l'Église catholique reste si attachée à Marie, et même aujourd'hui. Je le citerai tout à l'heure. Il est dit qu'en 1644, un décret de l'Inquisition romaine a mandaté les inquisiteurs pour saisir tout ouvrage portant le mot interdit, Immaculée Conception. Mais la vénération pour la Vierge Marie est allée plus vite et plus loin que ne souhaitait l'Église de Rome, même au point de l'embarrasser. Par contre, en 1854, ce précepte fut publié par Pie IX, car l'Église voulait relancer la foi populaire à l'heure où l'Europe s'enflammait par les idées républicaines. À peu près 15 ans plus tard, en 1870, le pape, sous l'auspice de la Vierge Marie, fait proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale. À partir de ce jour-là, il n'y aurait plus de pape sans Marie, et Marie, par la faveur qu'elle suscitait son culte, conférait, et je cite ici la revue de l'actualité religieuse, conférait en quelque sorte ses pouvoirs au pape. Depuis cette date, aucune période n'a été aussi fortunée en pèlerinage, procession, apparition, édition, édification que le 19e et 20e siècle. Ce fut alors qu'en 1950 que le précepte de son assomption, c'est-à-dire qu'elle était reçue au ciel corporellement de son vivant, a été annoncé. L'envoi du corps et de l'âme de Marie est affirmé à l'article 966 du catéchisme de l'Église catholique, que notre frère a déjà cité plus tôt, tout à l'heure. Et j'en reviens. Voici la citation. Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute éteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers. Page 207 et 208. Une petite parenthèse. Je ne suis pas ici en train de dénigrer la personne de Marie, le personnage de Marie. Elle a eu un rôle capital en ce qui concerne l'humanité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par contre, sa place d'artisan de l'unité Fautrix Unitatis de l'Église a subi un grand débat lors du Conseil de Vatican II. On s'est étonné de ce que de nombreux évêques et cardinaux s'inquiétaient en effet de la dérive mariolutrique. Le Conseil a donc posé la question de confiance concernant Marie. Faut-il faire de Marie un modèle pour l'Église? Le vote fut sans précédent. 40 voix de majorité sur plus de 2000 votants. Seulement pour Marie. Du jamais vu, où les majorités se fixaient normalement aux alentours de 90%. C'était que plus tard, après de grands efforts diplomatiques, que Paul V ou VI, pardon, a réussi à faire adopter par le Conseil le titre de Marie comme mère de l'Église. Mais que dit l'Écriture? Voilà la question que Paul pose dans Galates chapitre 4, verset 30. Voilà un peu l'histoire de Marie au milieu de l'Église catholique, leur dogme, etc. Deuxième question, deuxième principe de ce discours. Où en sommes-nous maintenant aujourd'hui? Où sont-ils pourtant? Faut dire, hein? Ce qui concerne la mariolutrie. Mais permettez-moi cette anecdote des États-Unis. Devant une petite clinique en briques rouges où on pratique les avortements thérapeutiques, dans la ville de Fort Wayne, dans l'Indiana, une poignée de militants pro-life brandissaient des photos de fœtus, de crucifix et des images de la Vierge. En effet, Bernard de Clairvaux avait exprimé plus de 7 siècles auparavant de Maria Nuntiam Satis. De Marie, on ne parle jamais assez. Saviez-vous que Louis XIII avait consacré son royaume à Marie pour le sauver? Que pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle invoquait depuis Londres Notre-Dame de la France? Même Jean-Paul Sartre, fait prisonnier en 1940, lui avait dédié une forme de poème, parce que, disait-il, car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Et cette citation vient de l'activité religieuse de l'année dernière, au mois de décembre, page 27. Nous parlons maintenant de Marie au sein de l'Église catholique et des catholiques en France. Un sondage de mois de mai en 1994, citation, établit que 51% des personnes interrogées semblent croire en la résurrection de Christ. Et 50% considèrent qu'on peut être guéri lors d'un pèlerinage à Lourdes. Un hommage à la fonction miraculeuse, au caractère surnaturel de l'action de Marie. Fin de citation. Alors, Marie, pour la moitié des personnes questionnées, peut consoler, rassurer, exaucer. Un spécialiste de la sociologie des religions a analysé la continuité de cette intensité mariale par un triptyque, ça veut dire une phrase composée de trois parties. L'influence de Marie se voit dans la fonction familière, la fonction identitaire et la fonction de guérison. Une association s'est préparée l'année dernière pour fêter la commémoration du baptême de Clovis. Vous vous en souvenez. En feuilletant leur documentation, un journaliste était frappé du nombre de références faites à Marie. Des prières adressées à elle, soulignées par une iconographie. Vierge, citation, aux grands yeux doux, bleu comme son manteau, dessiné dans un style présupicien. Et le vocabulaire même des prières s'affirme résolument sentimental, évoquant le cœur de Marie, uni au cœur de Jésus, qui nous écoute tous deux pour relier nos demandes. 96, l'année dernière. Il existe en France une association qui s'appelle la Tradition Famille Propriété, la TFP, toujours très active auprès des catholiques. L'année dernière, ils ont lancé une opération pour l'invocation de Notre-Dame de Fatima dans 75 000 foyers français. Voici la suggestion faite par la TFP dans un mailing de 21 juin 1996, adressé à des personnes âgées. Ah, maintenant je comprends pourquoi je l'ai reçu. Je me suis dit. Permettez-moi de vous suggérer une participation entre 250 et 500 francs. Bien sûr, n'hésitez pas à donner plus. Je suis sûr que la Sainte Vierge vous le rendra au centuple. D'ailleurs, la TFP est citée dans le rapport parlementaire Les Sectes en France, de janvier 1996, en tant que secte pseudo-catholique liée à l'Association Avenir de la Culture. Je ajoute encore une autre publicité de la TFP. En 1917, lors des apparitions de la Sainte Vierge à Fatima, elle a insisté plusieurs fois pour que l'on récite son chapelet. Elle a promis que si on mettait en pratique sa demande, les problèmes du monde seraient résolus, mais aussi nos problèmes individuels. Voilà ce que Marie, selon ses trois enfants, a dit. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Voilà ce qu'a déclaré la Sainte Vierge aux trois petits bergers de Fatima. Selon les statistiques, à l'heure actuelle, il y a entre 200 et 300 sites d'apparition mariale dans le monde. Alors nous avons abordé un peu la situation en France. Permettez-moi de continuer. Le catéchisme de l'Église catholique et le pape Jean Paul II. Le catéchisme de l'Église catholique donné le 11 octobre 1992, 30e anniversaire de l'ouverture du 12e Conseil de Vatican, en la 14e année de pontificat de Jean Paul, porte cette dédicace à la fin de l'introduction, préface que notre frère aussi a mentionné tout à l'heure. Au terme, je cite, vous pouvez lire après si ça vous intéresse, au terme de ce document qui présente le catéchisme de l'Église catholique, je prie la très sainte Vierge Marie, mère du Verbe incarné et mère de l'Église, de soutenir par sa puissante intercession le travail catéchétique de l'Église entière à tous les niveaux, en ce temps où l'Église est appelée à un nouvel effort d'évangélisation. On va vers les années 2000. Signé Johannes Paulus II, page 9. La piété mariale du pape est bien connue, car Jean-Paul a déjà fait la sienne, le mot d'esprit, totus tuus, tout à toi. Cela s'est passé lors de sa consécration à l'épiscopat par Pie XII en 1958 à Cracovie, ville se trouvant dans le sud de la Pologne. Ce fut à ce jour-là que Karol Wojtyła s'est alors présenté publiquement à la Vierge. Dans son premier Urbi et Orbi message, suite à son élection à la tête des catholiques, il invoquait la Vierge Marie, citation, qui vit toujours auprès du Christ et qui demeure en tant que sa mère. Il a également attribué le démantèlement des régimes communistes à l'intervention de Marie. Selon lui, il a aussi échappé tout juste à la mort dans les temps de sa vie, grâce encore une fois à Marie. Lors de son voyage ici en France l'année dernière, au mois de septembre, il a prouvé encore une fois la vitalité du culte marial. Se présentant comme pèlerin, venu pour prier avec les catholiques de France, en des lieux importants d'histoire religieuse de leur pays et de l'Europe, il s'est arrêté au premier lieu à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Là, il a rendu hommage à Saint-Louis-Marie Guignon de Montfort, dont la dévotion à la Vierge l'avait profondément marqué. Alors, nous ne devons pas être surpris de la place appréciable faite à Marie dans le catéchisme. Son immaculée conception est affirmée à l'article 491, où nous lisons qu'elle était préservée intacte de toute souillure du péché original. Sa pureté de tout péché est également avancé dans l'article 494, où nous disons « Marie devint mère de Jésus sans que nul péché la retienne. » Sur la même rubrique, on cite aussi « Par Ève la mort, par Marie la vie. » Songez un peu ça. Et lisez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 et verset 22. Sur l'article 499, nous relevons ceci sur l'Église catholique. L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Dans un chapitre consacré à la prière de Jésus, nous découvrons trois articles sur la prière de la Vierge. Nous lisons entre autres: la prière de Marie nous est révélée à l'aurore de la plénitude des temps. Avant l'incarnation du Fils de Dieu et avant l'effusion de l'Esprit Saint, sa prière coopère d'une manière unique au plein bienveillant du Père lors de l'annonciation pour la conception de Christ, lors de la Pentecôte pour la formation de l'Église, corps de Christ. L'Assomption de Marie, élevé corps et âme à la gloire du ciel, est aussi enseigné dans l'article 966, comme j'ai dit tout à l'heure. Je continue. Vous êtes braves. Sur les fêtes mariales, on lit, en célébrant le cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec amour particulier la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre du salut par un lien indissoluble. Page 257. La prière Marie est conseillée dans plusieurs articles du catéchisme, entre autres dans ce commentaire de l'Ave Marie. C'est « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. » Et comme a dit notre frère tout à l'heure, moi aussi j'ai prié cette prière avant que le Seigneur me sauve à l'âge de 19 ans aux États-Unis. Voilà ce qui est dit. On demande à Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs et nous nous adressons à la Mère de la Miséricorde, à la Toute-Sainte. Et on ajoute à la même page, nous pouvons prier avec elle et la prier. La prière de l'Église est comme portée par la prière de Marie et lui est unie dans l'espérance. Néanmoins, c'est intéressant ceci, l'abbé Pierre a avoué dans son testament qu'il a du mal à prier la Vierge. Contradiction, n'est-ce pas? Alors, j'ai parlé un peu de l'Église catholique, j'ai parlé un peu de catéchisme, de l'Église catholique et de Jean-Paul II. Avant d'aborder le dernier sujet, permettez-moi de dire juste un mot, juste un petit mot sur les charismatiques dans l'Église catholique. Bien qu'introduit dans les milieux catholiques par ce qu'on appelait protestants, le mouvement charismatique y rencontre, selon certains, moins de résistance que dans les cercles protestants. En fait, comme quelques autres catholiques l'ont souligné, le néopentecôtisme, au sens large, est davantage chez lui dans les anciennes églises, c'est-à-dire l'église de Rome. Il y a plus de 20 ans qu'on a constaté que le néopentecôtisme ne bousculerait en rien la foi des catholiques dans les traditions de leur église. Il semble au contraire que celle-ci acquiert une signification plus profonde. Les sacrements, la dévotion à Marie, obtenaient une faveur renouvelée, sans oublier de mentionner la présence réelle dans l'Eucharistie. Je vous rappelle que le renouveau charismatique au sein de l'Église catholique est considéré comme un nouveau courant spirituel récemment développé au sein de l'Église. Et ça, je prie d'une lettre pastorale de l'évêque de Metz, il y a quelques années. Et il a dit que le renouveau charismatique est devenu un des moyens d'établir des liens écuméniques entre les catholiques et les protestants et les pentecôtistes. Voici au point 3. Nous avons parlé du développement du culte de Marie. Aussi, nous avons vu la situation actuelle en France. Maintenant, à nous à réagir. Que devons-nous faire? Troisièmement, en tant que chrétien biblique baptiste, face au culte de Marie, nous devons réagir. Et je vais vous dire comment et pourquoi. Mais encore une autre illustration pour vous montrer comment cette situation est sérieuse. On a cité tout à l'heure, justement, les pourparlers avec les catholiques par les baptistes de la Fédération. Mais ça va plus loin que cela, dans d'autres pays. Un monsieur Scott Hahn, diplômé de la faculté de théologie de Gordon Conwell, faculté de théologie aux États-Unis, s'est converti au dogme de Rome. Après avoir lu 200 ouvrages par les érudits catholiques, il s'est tourné vers l'Église de Rome. Selon lui, la doctrine de sola scriptura ne pouvait pas être vérifiée par un passage biblique. Je en reviens. Alors, en s'engageant dans l'étude de la théologie systématique catholique pour avoir son doctorat, sa décision fut scellée. Il s'y défend à propos de la place de Marie dans cette manière. Voilà son argument. Christ obéit à la loi, n'est-ce pas? Oui. Les 10 commandements récapitulent la loi, n'est-ce pas? Oui. Un des commandements dit « Honneur ton père et ta mère ». Oui. Lorsque Christ a accompli la loi, il a également gardé cet ordre. Oui. Donc, Christ honorait et bénissait sa mère, n'est-ce pas? Nous devons imiter Christ, n'est-ce pas? Sa conclusion pour le culte à Marie, nous ne faisons alors ce que Christ avait fait avant nous. C'est dans le livre Protestants and Catholics Do They Now Agree, page 210. Que devons-nous faire? 3 points ici. Tout d'abord, affirmer, plus que jamais, les éléments de base de nos convictions bibliques. La devise de la réforme, sola scriptura. Par l'écriture seule, à l'exclusion de la tradition chère au magistère romain. Généralement complétée aussi comme ceci. Sola et tutta scriptura. Par l'écriture seule et toute l'écriture. Comme le rédigeait notre frère Dodler dans Évangélique et catholique ensemble, la mission chrétienne et du troisième millénaire, il ne s'agit pas de l'infaillibilité des écritures, mais de la toute suffisance des saintes lettres. Et puis, il a ajouté à cette citation de Luther, ce qui est affirmé sans l'appui des écritures doit être considéré comme une simple opinion et ne saurait s'imposer à notre foi. Sur la scriptura, sur le figure. Et puis, troisièmement, pour affirmer les doctrines de base,
Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas donc le fils et sa mère. Je ne cite pas, mais vous connaissez ces versets, 1 Timothée 2:5, un seul Dieu, un seul médiateur entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ, qui ferme. Acte 4:12, seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Bien-aimés, vous savez fort bien, Christ est au centre de la Bible. Il est persona, personne centrale des Saintes Écritures. Le plan éternel de Dieu gravite autour de lui. Et il n'y a que Jésus entre Dieu le Père et nous ses élus. En dehors de Jésus-Christ, toute connaissance de Dieu est erronée ou au moins incomplète. C'est dans et par le Christ que nous découvrons pleinement Dieu tel qu'il est. J'ai relevé une citation de la confession de foi réformée baptiste 1689 en ce qui concerne notre médiateur. Cet office de médiateur entre Dieu et l'homme appartient uniquement à Christ, qui est le prophète, prêtre et roi de l'Église de Dieu. Il ne peut pas être transféré de lui à aucun autre, que ce soit en totalité ou en une quelconque partie. Donc, affirmer nos principes, nos convictions bibliques. Deuxièmement, nous devons maintenir et sauvegarder une position claire et nette sur l'interprétation des passages bibliques qui évoquent le nom de Marie. Que dit l'Écriture? Pour le catholique pratiquant, Marie est à la fois vierge et mère, élue du ciel et femme simple, souffrante et bienheureuse. Elle est une figure unique et irremplaçable de leur foi. Archétype de la femme soumise à Dieu, modèle à la maternité protectrice, le culte, je cite, de l'actionnalité religieuse, de religion, de l'année dernière, le culte dont elle fait objet est pourtant sans rapport avec la place qui lui font les évangiles. Car ce que nous savons de la mère de Jésus tient en quelques lignes. Le catéchisme du Vatican enseignait que Marie restait toujours vierge. Voilà ce qu'ils ont dit. À cela, on objecte parfois que l'Écriture mentionne des frères et des sœurs de Jésus. Écoutez bien. L'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie. En effet, Jacques et Joseph, frères de Jésus, sont les fils d'une Marie disciple du Christ qui est désigné de manière significative comme l'autre Marie. Il s'agit des proches parents de Jésus, selon une expression de l'Ancien Testament. Là, il faut trouver. Souvenons-nous que Marie, la mère de Jésus, est toujours identifiée, sans équivoque, grâce au contexte. On découvre les textes apportant le nom de Marie dans les quatre évangiles. Je ne citerai pas tous les textes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, bien sûr. Il existe un seul verset dans les actes, acte 1-14, qui la nomme aussi. Ajoutons que plusieurs passages attestent que Jésus a eu des frères. Matthieu, Marc, Luc, Jean, acte 1 Corinthiens 9-5, Galates 1-19, le mot Adelphoé. Et aussi, on lit sur ses sœurs Adelphaï. En Matthieu chapitre 13, verset 56, et Marc chapitre 6, verset 3. Maintenant, je vais vous demander de trouver un verset dans la Bible. Au chapitre 1 de Luc, l'évangile sur Luc au chapitre 1. Donc, nous voulons soutenir, sauvegarder une position claire et nette, limpide, sur les textes bibliques qui parlent de Marie. Nous avons constaté qu'il y a un seul médiateur, que Marie a eu des enfants par de Jésus, et qu'en Luc chapitre 1, nous avons verset que nous citons souvent, et c'est important, Luc chapitre 1 au verset 46. Luc chapitre 1 au verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Peu après la visite de l'ange, Marie s'est rendue chez Élisabeth, sa parente. Au salut de celle-ci, Elle est répandue par un hymne auquel la traduction latine a attribué le nom de Magnificat, du mot grec megaluno, qui est traduit exalté ou exalté. C'est en effet un cantique de toutes les grandeurs, si vous voulez, de ce passage, n'est-ce pas? Elle a tissé ensemble les fragments de l'écriture, pris dans les livres de Samuel, des psaumes, d'Isaïe et même le petit livre d'Habacuc. Elle était comme une Bible ouverte, en retirant au silence du parchemin et en prêtant sa voix claire et innocente aux vieux mots dans un hymne d'adoration que nous avons ici dans le chapitre 1. Marie appelle Dieu mon sauveur. Comme nous tous, elle avait besoin d'un sauveur. Elle a dû se convertir à Christ comme le Messie, tout en rejetant les vaines traditions juives. Et puis, ajoutons que Marie n'est pas notre, ni les catholiques d'ailleurs, une méditatrice. Elle ne prie pas pour nous, ni reçoit nos prières. Je ne vais pas vous fatiguer par trop, encore trop de citations, mais encore un autre, au moins ici. En effet, après son assomption de catéchisme, de catholique, de catholique, en effet, après son assomption du ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'exulératrice, de secourable, de médiatrice. Et donc, sur une page, il cite l'Évangile selon Jean. Vous connaissez donc le passage dans Jean chapitre 2. Je ne vais pas donc vous demander de trouver. Mais d'après eux, l'Évangile nous révèle comment Marie prie et intercède dans la foi. À Cana, la mère de Jésus prie son fils pour les besoins d'un repos, un repas, pardon, de noces. Et c'est l'heure de nouvelle alliance au pied de la croix que Marie est exaucée comme la femme, la nouvelle Ève, la véritable mère des vivants. Alors, Augustin est appelé la grande autorité théologique dans l'Église catholique. Il n'a pas donné cette interprétation que l'Église de Rome nous donne. Selon lui, notre Seigneur était Dieu et homme tout ensemble. En tant que Dieu, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas de mère. En tant que l'homme, il en avait une. Marie était donc la mère de son corps, la mère de son humanité, la mère de l'infirmité qu'il avait prise à cause de nous. Donc, Auguste n'est pas, bien sûr, d'accord avec ce que l'Église catholique enseigne ici. Encore quelque chose des baptistes du XVIIe siècle. Le culte religieux doit être rendu à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à lui seul, et non pas aux anges, aux saints ou quelques autres créatures. Depuis la chute, ils ne se rendent pas sans un médiateur, ni par quelque autre médiation que celle du Christ seul. Et puis, que devons-nous faire? J'ajoute, nous devons avertir ceux qui se laissent entraîner dans l'engrenage des liens avec l'Église de Rome, ceux qui s'engagent dans les pourparlers avec l'Église catholique. Lorsque les entretiens du comité mixte baptiste catholique s'engageront sur Marie, mère de Jésus, sont catholiques, mère de Jésus et non pas mère de Dieu, les baptistes vont-ils dire aux catholiques que le culte des madones est radicalement réprouvé par les saintes écritures? Vont-ils oser affirmer, toujours selon l'Évangile, que jamais Marie n'est apparue à qui que ce soit et que les lieux de pèlerinage sont surtout des centres de superstition et de fausseté religieuse? Pour terminer, je vous demande de trouver le petit livre de Jude. Sans doute, vous avez déjà deviné quel verset que nous citons dans ce combat ici-bas. Jude, verset 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il est question de soutenir le combat, de lutter pour la foi. Si vous examinez ce verbe combattre dans la langue originale, vous avez trouvé que nous avons une racine que nous connaissons bien, agoniser. Mais il a ajouté une préposition qui donne l'idée combattre sincèrement ou sérieusement pour la foi. Puisque Jésus-Christ nous a été donné pour le seul avocat et nous ordonne, et nous ordonne de nous adresser directement à son Père en son nom, et puisqu'il ne nous est permis de prier quand nous nous conformons à la manière que Dieu nous a prescrit dans sa parole, nous croyons que tout ce que les hommes ont inventé quant à l'intercession des saints trépassés n'est que abus et ruse de Satan pour les détourner de la manière de bien prier. Je cite les parties du 17e siècle, et je continue. Enfin, nous considérons la purgatoire comme une erreur provenant de cette même boutique d'où découlent aussi les vœux monastiques, les pèlerinages, toutes ces choses, nous les rejetons non seulement à cause d'idées mensongères de la vie qui est attachée, mais aussi parce qu'elles sont des orientations humaines qui imposent un juge à nos consciences. Combattez pour la foi. Et puis, bien aimé,
il faut avoir un amour pour la vérité,
un esprit de discernement et une unité basée sur le fait que nous ne sommes que les sauvés sur l'unité, par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et nous sommes ici ce matin. Bien sûr, nous voulons voir que l'Évangile progresse, nous voulons voir d'autres personnes sauvées dans ce milieu catholique. Et nous espérons que par cette conférence, nous allons voir donc encore avec nous les armes nécessaires pour le bon combat. Permettez-moi de récapituler en vitesse.
Nous avons
abordé d'abord la question du culte de Marie. Comment ça s'est développé à travers les siècles?
En deuxième lieu, nous avons touché
la situation actuelle des catholiques en France, le catéchisme, le pape, les charismatiques. Et puis après, je vous ai encouragé dans la demande de réaction que nous devons affirmer nos convictions bibliques de base sur la scripture, sur la fide, un seul médiateur. Et puis avoir une position claire et limpide sur Marie. Elle n'était pas toujours vierge. Elle avait besoin d'un sauveur. Et elle n'est pas donc une médiatrice. Luttons sérieusement et sincèrement. Le Seigneur reviendra bientôt. Le temps est proche. Ayons un amour pour ceux qui sont encore dans cet engrenage de l'Église catholique. Permettez-moi de terminer par un chant. Je ne vais pas chanter. Oui, je sais. Lorsque j'étais à Moselle, j'ai acheté cet ouvrage, Protestants, Messins et Mosellans. Frappant. En Moselle, dans le 17e siècle, à Metz, presque un tiers de la population professait la foi huguenote. Il y avait un temple pour 4000 places, 4000 personnes. Bien sûr, 30 ans à peu près avant les réouvertures de l'île de Nantes, la ville était évangélisée, on peut dire. Et je relevais dans ce livre une chanson huguenote, chantée à Metz en 1657. Ça peut être chanté à l'air de vous, Saint-Cohort, de vous, Genève, je ne sais pas. Il y a 10 strophes! 10 strophes! Imaginez! 10 strophes! Alors, je vais simplement citer 3 strophes. La première, troisième et dixième, pour terminer. Imaginez-vous si on chantait ceci aujourd'hui. Retirez-vous, papistes. Venez à Jésus-Christ, croyez évangélistes, et laissez l'antéchrist. Ne croyez pas aux fables que vos prêtres menteurs disent être véritables, ce sont des abuseurs. Les Romains font user, verset 3. Les moins fondés de notre profession parce qu'elle n'est fondée sur la tradition, mais dessus l'écriture, qui contient vérité, rejette toute ordure et toute vanité. Verset 10. Prions notre Père, au nom de Jésus-Christ, que puissant à sa gloire d'un cœur pur le servir, que délaissant la terre, l'ayant servi ici-bas, nous puissions sa gloire chanter Alléluia. Amen.